Ça va? Donc on reprend alors la fin du dernier cours qui traitait de la forme qu'allait prendre la Géoula de Ham Israël et du monde tout entier. On avait expliqué qu'il y avait deux processus qui marchaient simultanément. Un processus qui était extérieur, où on voit qu'en réalité ce sont les hommes qui doivent faire l'effort de venir, de monter vers Dieu. Ça c'est Tishrei, Taf, Shin, Resh, comme les lettres de Tishrei, Tashrak. Ou alors, en même temps, un processus intérieur qui est en fait Dieu qui descend vers les hommes. Et ça c'est le processus de Nissan, puisque le mois de Nissan, Dieu est descendu dans ce monde pour nous sauver, pour nous sortir d'Égypte. Et en fait, les deux se passent en même temps, et c'est une discussion entre les deux sages, Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, à quoi correspondrait la Géoula de Ham Israël. Est-ce que c'est du bas vers le haut? Est-ce qu'elle va dépendre de notre Teshuvah? Ou est-ce que de toute façon elle arrive parce que c'est une lumière qui vient du haut vers le bas malgré notre état? Est-ce que c'est possible qu'on soit sauvé malgré notre état? Je vous pose la question. Il y a une preuve? La sortie d'Égypte, c'était ça. Ça veut dire qu'on a été sauvé malgré notre état. Qu'est-ce que ça veut dire par là? Ça veut dire qu'en réalité, Dieu a sauté par-dessus, a passé au-dessus de notre niveau. C'est ce qu'on appelle Pessah. Pessah, c'est passer au-dessus. Donc je vous pose la question, Dieu est passé au-dessus de quoi? Il a marqué au-dessus des maisons d'Israël. Mais en fait, Dieu est passé au-dessus de notre niveau. Il n'a pas tenu compte, à ce moment-là, de notre niveau, parce que s'il devait tenir compte de notre niveau, on ne serait jamais sorti d'Égypte. Et donc il y a des accélérations dans l'histoire, où HaKadosh Baruch Hu fait des choses qui sont au-delà de ce que même le peuple a mérité, a préparé, et ainsi de suite. Ma?
Les 49 jours du Homer.
Qui sont quoi? Qu'est-ce que tu veux dire par là, les 40 jours, 49 jours?
La semaine, on se l'attend. Comme on dit, 49e jour du bras, on passe à...
Oui, oui, ça c'est un travail, Nachon, tu as raison. Nachon, Nachon, Nachon. Et c'est tout ça parce qu'on l'a reçu gratuitement à Pessah. Alors, on reprend maintenant du troisième paragraphe. Sibat adavar, mashemitzat chitzoniyut haolamot, matrila hageula. La raison pour laquelle c'est de l'extériorité des mondes que commence la geula, meharaglaim, c'est-à-dire des pieds, hi mipnei yeridat haolamot mimerom hapisga, c'est parce que les mondes sont tombés de la hauteur dans laquelle ils étaient au départ, à tartit hamadregot, jusqu'en bas de tous les escaliers. Okay. J'ai raté un épisode. Hein? Ah. Top. Pas vu. Alors, le secret ici, c'est que la Géoula peut commencer de deux manières différentes. Ou du haut vers le bas, ou du bas vers le haut. Alors, ici, dans le Rav Harlap, la raison pourquoi la Géoula doit commencer des pieds vers la tête. Imaginez-vous un corps humain qui commence à être délivré à partir de ses pieds et on monte tout doucement jusqu'à la tête. Pourquoi la délivrance se fait de cette manière-là? Pose la question, il le rave, et il répond tout de suite, parce que les mondes très très élevés sont tombés très bas. C'est-à-dire que pendant la création du monde, après la faute du premier homme, tout est tombé à un niveau très très bas. C'est-à-dire que comme c'est tombé très bas, ça doit commencer en fait du très bas en revenant vers le Très-Haut. Vous vous rappelez, on avait expliqué une fois du Bet vers le Aleph. Du monde de la séparation, le mot Bet, la lettre Bet, c'est une lettre de dualité, vers la lettre Aleph de l'unité. Vous vous rappelez de ce degré, ce qu'on appelle Olama Ba. Bet qui va vers le Aleph. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, puisque nous sommes dans un monde avec ses degrés, ses qualités, on est tombé dans ce degré-là. Eh bien, c'est de là qu'on doit commencer. Dans la tchouva, c'est la même chose. Peu importe où tu es tombé dans ta vie, par tes fautes, de là-bas, tu dois commencer à remonter. Si tu commences à te dire, non, c'est trop loin, je ne pourrai jamais revenir à Aleph, à l'unité, il y a un problème. Donc, tu dois avoir confiance en toi, une emouna, que les choses se font du bas vers le haut, des pieds vers la tête, c'est-à-dire du monde le plus extérieur, vers le monde le plus intérieur, tout doucement, tu montes les étapes à l'intérieur même de toi. La Géoula du monde, c'est la même chose. C'est-à-dire que quand on voit le processus de la création du monde à Bereshit, on voit qu'en réalité, Akadosh Baruch Hu a créé quoi d'abord? Les choses extérieures, les plus lointaines. Et tout doucement, il crée les choses les plus intérieures, en finissant par l'homme et après le Shabbat. Vous vous rappelez? Pourquoi Dieu a créé les choses de cette manière-là, du plus loin, du plus grossier, du plus matériel vers le plus spirituel? Parce que ça, c'est le degré de ce monde. Le monde dans lequel nous sommes, la première vue que nous avons de n'importe quelque chose, qu'on est en train de regarder, on voit d'abord son extériorité.
C'est un four.
Qu'est-ce que tu peux dire, c'est un four?
Parce que c'est comme ça, parce que Hachem nous a créé comme ça.
Oui, mais...
C'est la cause, c'est de là.
D'accord, mais est-ce que la chose la plus extérieure, c'est celle qui paraît en premier? C'est comme ça que ça se passe dans ce monde. Les olam aklipa kodemet la pri. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que... Non, si tu fais l'inverse existe déjà. C'est-à-dire la neshama existe avant le corps. On est d'accord? Okay? La neshama existe avant le corps. Mais le corps, c'est lui qui va, en l'amenant ici dans ce monde, va inviter la neshama qui existe déjà. Okay? Quand vos parents vous ont amené au monde, okay? Ils ont amené quoi? Un corps ou une âme?
Un corps.
Un corps. Et l'âme, d'où elle sort? Est-ce qu'elle existait avant ce corps ou pas?
Oui.
Il y a fait. Mais qui apparaît avant? Le corps. Voilà, c'est ça l'exemple. Ça veut dire que Dieu a créé un système comme ça, où les choses les plus fines apparaissent en dernier. La même chose quand un enfant grandit. Dans les premières années de sa vie, vous allez voir ses choses les plus grossières. Et au fur et à mesure qu'il grandit, vous allez voir sa finesse. Parce que sa neshama rentre tout doucement au fur et à mesure qu'il grandit. La Géoula se fait de la même manière. C'est comme un enfant qui grandit, comme tout ce qu'on vient de donner comme exemple. D'accord? Du très loin au très pnimi intérieur.
Moi, j'ai une question. Ken. Comment ça se fait que les générations d'avant, elles étaient plus proches de Dieu que celles de l'avant? Donc c'est à tour.
Pourquoi tu dis qu'elles étaient plus proches de Dieu? C'était au niveau individuel ou collectif?
Au niveau individuel.
Bien fait.
Non,
non, il y a des différences dans les générations où, par exemple, dans tout le temps des Tanaïm, les Tanaïm, eux, qui avaient la sagesse, étaient des grands, mais la plupart du peuple qui n'avait même pas de livre pour lire, okay, étaient des gens très très simples, ils ne comprenaient pas.
Alors,
parce que le niveau collectif est un niveau qui se travaille et qui, en fait, c'est lui qui fixe s'il y a Géoula ou il n'y a pas Géoula. La Géoula ne se tient pas au niveau individuel. Au niveau individuel, ça dépend de l'effort de chacun, et donc il va y avoir un effort, les hommes vont grandir d'un niveau. Mais si le peuple tout entier n'est pas à ce niveau-là, on ne peut pas faire une Géoula avec deux ou trois hommes individuels, même s'ils sont les plus grands du monde. Avraham, Yitzhak et Yaakov, par exemple, n'ont jamais connu le nom Yudke Vavke, le tétragramme. Même s'ils le connaissaient, ils l'avaient vu, mais ça n'est jamais apparu vers eux. Il n'y avait pas eu de contact avec ce nom. Pourquoi? Les sages nous disent parce qu'ils étaient individus, ils n'étaient pas encore peuple. Mais dès que le peuple apparaît, c'est un autre niveau. Le peuple, il a une force de dévoiler le Yud Kevavke, le tétragramme, et là c'est un autre niveau. Et donc, dans les générations d'aujourd'hui, tu as raison qu'au niveau individuel, peut-être qu'on a perdu au niveau de la sagesse de ces grands qu'il y avait avant, mais au niveau collectif, on a gagné. D'accord? Ça veut dire qu'il y a un processus qui est inversé au niveau du Prat et du Klal. L'inverse. Le Prat reflète le Klal.
Ah, justement. Si,
non, il n'était pas pourri, ce n'était pas le Klal. Toi, ce que tu es en train de poser comme question, c'est un chiot qu'on a déjà développé, mais je fais une petite hazara. Toi, tu considères que Klal, c'est l'ensemble des individus. C'est pas ça le Klal. Ça, c'est le Tzibour. Le Klal, c'est une Neshama que Dieu a créée, qui est la source même de toutes les générations, de toutes les âmes qui vont descendre dans ce monde. C'est une âme, c'est spirituel, le Klal. Il n'y a pas aucun rapport avec le corps. Klal Israël, c'est une neshama divine. Bnei Israël, ce sont les hommes individuels, et le Tzibour, c'est l'ensemble de ces hommes individuels. Donc il y a Klal, Tzibour et Bnei Israël. D'accord? C'est différent. Donc le Klal Israël doit arriver... Cette grande neshama qu'on appelle Klal Israël, un jour ou l'autre, elle doit arriver à se développer, à se dévoiler dans ce monde. dans les pratim, dans les détails. Je n'ai pas compris. Comment
vous pensez que le clan évolue en grandissant ?
Qu'est-ce que ça veut dire qu'en grandissant ? Ça veut dire qu'il se dévoile dans plus de détails. Donc il y a plus de ce klal, de cette grande neshama qui apparaît dans ce monde. Ce n'est pas que lui il grandit. C'est toujours le même. Il ne peut pas bouger lui. D'accord ? Vous avez d'autres questions ? Non. Le klal Israël, il est déjà au maximum de sa hauteur. C'est une neshama divine extraordinaire, comme un grand soleil, et qui envoie ses rayons dans chacun de nous. Dans toutes les générations, pas seulement à cette génération-là. Donc c'est comme s'il y avait une lumière verticale qui descendait dans toutes les générations qui étaient horizontales. Les générations passent et cette grande neshama descend.
Plus on est et moins on en possède.
D'un côté, tu peux dire que plus on est, moins on possède, mais en fait, ça ne se mesure pas en quantité, c'est une qualité. C'est-à-dire, il faut quand même un minimum d'hommes sur Terre pour dévoiler cette grande neshama qu'on appelle Klal. 600 000.
Une personne ne peut pas fonctionner.
Non. Il y avait une personne qui était équivalente à ça, c'est Moshe Rabbeinu. Ken. Mais en réalité, on ne peut rien faire avec Moshe seul, parce que si c'était comme ça, on n'aurait pas besoin du peuple. Ken. C'est que le peuple...
Mais si c'est pas en quantité, alors...
Ken. J'ai dit, il y a un minimum de quantité qui dévoile cette qualité, c'est 600 000. Parce que c'est la matrice, c'est 600 000 âmes.
D'accord, à partir de 600 000, c'est-à-dire s'il y en a moins que 600 000...
S'il y a moins de 600 000, alors ça veut dire que le 600 000, c'est une valeur absolue qui est en haut, qui se dévoile même dans moins de personnes. Ça veut dire que toi, tu auras deux. À partir de 600 000, on peut être, par exemple, toute cette classe, une seule parcelle, et encore. D'accord ? Ça veut dire qu'il peut y avoir, par exemple, tout le Machon Meir, c'est une seule parcelle d'âme. Puisqu'il n'y a pas 600 000 juifs dans le monde. Il y a 8 millions, 15 millions, 20 millions, ça dépend des périodes.
Mais alors, ça voudrait dire que pour une résurrection, il y aurait une âme par personne.
Non, 600 000. Non, il y aura une petite parcelle d'âme par personne, mais en réalité, un groupe entier fait partie de la même âme. Et donc, va se reconnaître qui était qui dans chaque Gilgoul. C'est quelque chose de très, très, très important, parce que chaque corps qui a fait le travail dans ce monde pour réaliser cette Neshama doit recevoir sa récompense. Donc, tous les corps reviendront. Mais en fait, il va se... Imaginez-vous que maintenant, nous, on s'est levé, on a tous une résurrection de mort, mais je vais savoir que lui, c'était moi dans un Gilgoul d'avant, et lui, c'était moi dans un Gilgoul d'après, et on est tous des parcelles de la même Neshama. On va se reconnaître entre nous. On va savoir qu'on travaille tous pour la même parcelle. Ça, c'est encore au niveau de la femme.
Chacun, elle a une mission, ou alors c'est la même...
La mission générale... De la création du monde, c'est de dévoiler cette grande lumière divine dans ce monde le plus bas. Ça, c'est en général. Maintenant, pour avoir ça, il faut devenir associé au Créateur. Donc, pour devenir associé du Créateur, il faut appliquer la Torah et les mitzvot. Mitzvot, en hébreu, ce n'est pas des commandements. Mitzvah vient du mot tsevet, qui veut dire équipage. Ça veut dire on fait équipe avec Dieu. Quand on fait une mitzvah, on amène en fait plus de divin dans le monde. Par exemple, là, on est en train de faire une mitzvah, d'étudier la Torah. Eh bien, il y a plus de divins qui descendent dans le monde. Qu'est-ce que ça va faire? Eh bien, ça va faire en sorte que, je ne sais pas, moi, il y a un type qui se balade maintenant à Jérusalem, tranquille. Eh bien, il va recevoir quelque chose comme une étincelle de faire tshuva, de s'améliorer. Pourquoi? Parce qu'au Machon, maintenant, il y a des gens qui sont en train d'étudier. On n'arrive pas à comprendre qu'il y a des liens, mais ça se passe comme ça. Pourquoi tout ça? Parce qu'on amène plus de divins dans le monde. Donc si on amène plus de divins dans le monde, il s'éparpille dans le monde et il remplit tous les endroits, de plus en plus. Et la Géoula ultime, c'est quoi? Umalea ha'aretz. C'est-à-dire que la terre sera remplie de ça. C'est-à-dire que la lumière divine sera complètement descendue, dévoilée ici.
Et à quel moment concrètement elle sera remplie? Quand tous les juifs sont dans la
salle? Alors, il y a plusieurs degrés, ok? Il y a d'abord ce qu'on appelle Triatametim, il y a le Mashiach, Triatametim, Binyan Metamikdash, il y a des étapes, même dans la Géoula, il y a des étapes. Ce n'est pas un jour et c'est fini. Alors la Géoula elle-même, si on considère qu'elle a commencé il y a 60 ans, parce que le peuple est en train de revenir sur sa terre, donc on est dans un processus, on n'est pas encore dans la Géoula complète, il faut que le Mashiach apparaisse, il faut qu'il construise le Betamikdash, il faut qu'il ramène les éparpillés de Ham Israël, donc il y a beaucoup, beaucoup d'étapes. Jusqu'au degré le plus ultime, on ne sait pas exactement comment les choses vont se passer. Comme ça dit le Rambam, Personne ne peut vous dire exactement ce qu'il y aura tant que les choses ne seront pas passées. On est trop petit pour comprendre ce qui va se passer. En tout cas, il y a une émouna pshuta que les choses vont se réaliser et que la connaissance de Dieu va descendre sur la terre. On voit que ça se réalise puisque aujourd'hui, Baruch HaShem, il n'y a jamais eu autant de monde qui étudie la Torah depuis la création. Donc tu vois qu'au niveau collectif, il y a beaucoup plus de Torah qu'au niveau individuel. Même si les individus ne sont pas aussi grands que ceux qu'il y avait avant, mais au niveau collectif, il y a beaucoup plus de Torah. Contradictoire, apparemment. C'est pas contradictoire, c'est tout simplement que les gens d'avant prenaient la force de tout le monde sur une personne. Et aujourd'hui, cette force, elle s'est éparpillée dans plusieurs personnes. C'est la même force, mais différente, qu'elle appliquait différente. Ça veut dire que nous tous, on était un grand. Alvaï.
Au don de la Torah.
Oui.
Ils étaient 600 000
hommes.
Ils ont étudié tous.
Qu'est-ce que ça veut dire, ils ont étudié? Oui, oui.
Tous. Toute l'âme, tout le clal étudié.
Tout le tzibour.
Le clal aussi.
Le kalal, c'est la neshama d'en haut.
Ouais, mais elle étudie entre autres.
D'accord. Elle descend dans ce monde, elle se dévoile en eux.
Du clal, elle étudie.
Ok.
Plus qu'aujourd'hui,
non. Non, puisqu'il manquait...
Il y en a qui étudient pas.
Tu as raison. Mais qu'est-ce qui manquait là-bas? Si c'était comme ça, Moshe Rabbeinu, il aurait dû leur dire, on est arrivé au Mont Sinaï, la plus grande yeshiva du monde, on a le plus grand rav du monde, Moshe Rabbeinu, vous êtes tous en train d'étudier, vous n'avez même pas besoin de travailler puisque les vêtements grandissent avec vous. Il a fait. D'ailleurs, il le dit. Tu prends le premier chapitre du livre de Devarim, il leur dit, Moshe Rabbeinu, rav lachem shevet bahar hazeh. Ça suffit de rester sur cette montagne. Pnu usu lachem. Prenez vos bagages et voyagez. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens ont pensé comme toi. Ils ont dit, ça y est, on est arrivé au bout. Qu'est-ce que tu veux de plus? On étudie la Torah, on est grand, on n'a rien à faire dans la vie que d'étudier, on est tranquille.
Alors, c'est là pourquoi je les ai parlé directement en Israël, et toujours dans ces mêmes conditions. Pourquoi elle
n'est pas divorcée? Mais vadaï, ça c'est le travail de l'homme, c'est-à-dire pour acquérir Israël, quand shalosh matanot natan akadosh baruch hu le Israël, ve kulam lo netanam ela derech isurim. Je traduis, trois cadeaux Dieu nous a donnés, mais il nous a donnés avec des épreuves. Ça veut dire qu'il faut qu'on mérite d'arriver. Ça veut dire si on n'avait pas fauté en route, on serait arrivé. S'il n'y avait pas les explorateurs qui avaient parlé du mal de la terre d'Israël et qui avaient refroidi tout le monde en leur disant « Oui, c'est pas bien de monter, vous allez perdre votre Torah, vous allez... » et ainsi de suite. Et que les gens n'avaient pas avaient écouté ces explorateurs, ils sont arrivés à Tisha B'Av. Mais s'il n'y avait pas ça, on serait rentré. Combien de temps il y a entre le mont Sinaï et Eretz Israël? Il y a marqué « Echad Esreyom », 11 jours de marche. Donc après 11 jours du mont Sinaï, qui était lui après 50 jours de la sortie d'Égypte, donc 50 plus 11, 61 jours, on serait déjà en Eretz Israël. C'est fini. Et peut-être moins que ça. Mais les explorateurs sont venus perturber ce travail-là en essayant de dire aux gens de ne pas partir, parce que justement, peut-être que l'idéal, c'est seulement la Torah et pas la Terre.
Pourquoi ils ont envoyé sur la Terre?
Parce que c'est les gens qui ont demandé. Nishlecha anashim lefanenu, que dit Moshe dans le livre de Dvarim. Nishlecha amartem, nishlecha anashim lefanenu veyatur veyachperu lanu et haaretz. On voit des hommes qui nous voient la terre. Tu sais, quand tu as une confiance en Dieu, malgré tout, quand tu es sur le terrain, des fois la confiance elle te dit bon, Dieu, je ne sais pas jusqu'où il va intervenir, il faut que je fasse quand même quelque chose. D'accord,
c'est ça. Des débuts, dès qu'ils ont envoyé, c'est...
Tu as raison. Il y a un problème déjà de manque de confiance. Que Akadosh Baruch Hu, tout ce qu'ils ont vu, il y avait un manque de confiance, mais apparemment, c'est quelque chose qui nous appartient aussi aujourd'hui. C'est-à-dire, je peux trouver chez toi, et tu peux trouver chez moi, les mêmes styles de problèmes. Même si j'ai confiance complètement, il y a des moments où je me dis, bon, il faut quand même que je fasse un truc. Donc, en fait, c'est comme si je faisais moi le travail à sa place.
On n'a pas connu les mêmes dévalements que nous, on a connu.
Alors, chacun selon son niveau. Chacun selon son niveau. Ça veut dire qu'ils avaient un niveau, donc leur Yetzerara était au même niveau. Puisque l'homme est toujours équivalent à ce qu'il aura dans son Yetzerara. Plus quelqu'un est grand, plus son Yetzerara est grand. D'accord ? Kol gadol mi chavero, yitzro gadol mi meno. Donc ne vous croyez pas, quand vous allez grandir en Torah, que ça allait vous dépasser tout ce degré de Yetzerara. Au contraire. On peut. À un moment donné... On est complètement dans la main. Ça veut dire que le Yetzerara, il est dans la main. Mais c'est un grand, grand niveau. Okay.
Et pourquoi ils ont recommencé avec Yeshua?
Ils ont recommencé, encore une fois, je viens d'expliquer. Parce qu'à chaque fois qu'on arrive à un degré, on s'endort un petit peu. Ben, regardez votre vie à vous. Chacun sa vie. Vous êtes arrivé dans votre vie des fois à un degré où vous croyez que vous savez bien bien quelque chose. Qu'est-ce qui s'est passé après? Vous êtes un petit peu endormi. Prenez des exemples dans votre vie. À chaque fois, on s'endort un petit peu, on retombe, et après on voit que, mince, si je ne fais pas des efforts tout le temps, je perds le niveau. Et ça, c'est au niveau du peuple la même chose. Le peuple arrive à des degrés très très élevés, et après il commence à avoir du bien, il commence à construire des maisons, il commence à avoir de l'argent, il commence à avoir des biens, ils oublient complètement qui leur a donné tout ça. Ça va vite, hein. C'est l'oubli, c'est quelque chose qui attaque. C'est pour ça qu'avant de rentrer à Pourim, on lit la paracha de Zachor. De se souvenir, parce que quelqu'un qui ne se souvient pas, il peut oublier très vite. 60 ans après la Shoah, il y a des gens déjà qui disent que ça n'a pas existé. Comment tu peux comprendre? Il y a même des juifs, peut-être. Il y a des gens qui sont contre. L'oubli, c'est quelque chose qui nous attaque. Regarde, on est venu dans ce monde. Quel âge tu as? 24 ans. Ça fait 24 ans que tu es sorti du ventre de ta maman, alors que dans le ventre de ta maman, tu as étudié déjà toute la Torah. Tu te souviens? Difficile. Pourquoi on oublie? D'où vient ce degré de l'oubli? Shichecha. Shichecha, c'est les mêmes lettres que chosher, c'est le noir. Le monde dans lequel nous sommes, le monde matériel, nous fait oublier plein de choses. Sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, on oublie, on oublie, on oublie, on oublie. Et donc il va falloir nous donner un jour dans l'année, au moins, pour nous souvenir. Quel est le premier jour de l'année? Rosh Hashanah, comment il s'appelle? Yom HaZikaron. Le jour du souvenir. Ça veut dire que si je ne me souviens pas à Rosh Hashanah, qu'est-ce que je suis venu faire dans ce monde? C'est fini. Je suis encore foutu, je sais même pas, je suis là, je me réveille le matin, je suis au Mahon pour l'instant, je ne sais pas ce que je vais faire. Il n'y a rien, il n'y a pas de suivi, il n'y a rien. Parce qu'il n'y a pas d'Aemouna, tu ne sais pas vers quoi tu vas, tu n'as une vision que restreinte, petite. Vous comprenez? Donc l'oubli, c'est quelque chose qui nous attaque. Et quelqu'un qui ne fait pas l'effort de se souvenir, il est mort. Ok?
Pas compris ce que vous dire, mais je comprends pas vraiment le sens, c'est pour moi c'est comme ça. Parce que on dit que le reproche, c'est qu'on n'a pas fait vraiment confiance à Hachem, parce que quand on fait confiance, c'est qu'on voulait voir quand même, parce que peut-être Hachem, entre guillemets, ne fera pas tout le travail.
Okay.
Parce que là, c'est comme on dit, Hachem et Azor, Hachem et Azor.
Il y a fait, tu as raison.
D'accord, mais je fais ça pour toi alors.
Non. Non, parce que tu as raison. Tu as raison. Tu as raison. Donc je dis pas qu'il y a un reproche maintenant pour les explorateurs. Je dis pas que c'est un reproche. Le reproche, c'est quoi? La conclusion. Ils auraient pu envoyer des explorateurs, d'accord? Il y a des gens qui font un voyage d'études, ils ont le droit. En Eretz Israël, c'est comme des explorateurs. Ils ont le droit. Ils viennent voir où ils vont trouver un travail, où est-ce qu'ils vont habiter. On a le droit. Mais la conclusion était une conclusion négative. Ça veut dire, je te laisse le choix de participer. Mais quand tu conclus l'inverse que ce qu'Akadosh Baruch Hu t'a dit, Haaretz Hazot Tova Hi Me'od, et toi tu dis, non, elle n'est pas tellement bonne, il y a trop de problèmes, on ne peut pas, on ne peut pas, on ne peut pas. Alors que Dieu, il vient pour nous amener là-bas, là il y a un problème. C'est-à-dire, dans le travail, tu peux faire, je te laisse le travail de faire, même si tu as envie de participer, comme tu dis, et de voir de tes forces. Mais la conclusion, il faut faire attention. La dernière ligne, qu'est-ce que tu conclus de tout ça? Okay. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors donc, Shehi Apsia Delbar Sheberegelatav, on avait expliqué que c'était en fait la dernière lettre de l'alphabet, la lettre Tav. Vous voyez que dans la lettre Tav, il y a un petit pied qui sort. Ça veut dire c'est ce petit bout qui sort de la lettre Tav, c'est la lettre la plus lointaine qui puisse exister. Dans le Tav elle-même, qui est la dernière lettre, il y a un petit bout qui est le dernier du dernier. Et c'est de là-bas que va commencer la Géoula, donc du Taf vers la lettre d'avant, Shin, du Shin vers Resh, du Resh vers Kouf, et on remonte comme ça jusqu'au Aleph. D'accord? Ça c'est la Géoula au niveau extérieur. Ça veut dire que à quoi on s'occupe en premier quand on arrive dans ce monde? Des choses spirituelles ou matérielles? Matérielles. Et tout doucement, on gagne en spiritualité. C'est comme ça qu'un enfant naît, c'est comme ça que la terre a été créée, c'est comme ça que Medinat Israël a été aussi faite. On a commencé par des choses extérieures, il n'y avait pas encore vraiment de Torah, on a construit des routes, on a construit des chemins, ce que vous voulez, des maisons, et tout doucement, on arrive à une étape maintenant où on doit passer à une étape supérieure. Quoi? La Torah. La spiritualité, l'esprit maintenant, qui va se trouver dans toute cette matière. Et si on fait que la matière sans l'esprit, il y a un problème. Donc maintenant, il est arrivé le temps, et c'est à peu près, ça correspond à votre âge, c'est pour ça que vous êtes là, où à votre âge, on commence à sortir un petit peu de la première étape de notre vie, ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, qui était très très matériel, et maintenant, vous êtes en train de vous intéresser à des choses un petit peu plus fines, c'est-à-dire que vous êtes en train de vous-même de passer un processus de Géoula, de délivrance personnelle. Et au moment où vous allez vous enrichir complètement de ce degré spirituel, sans perdre la matière, ça veut dire que vous devez rester sain aussi dans votre corps, même quand vous étudiez la Torah. Vous devez faire du sport, même quand vous étudiez la Torah. Quelqu'un qui ne fait pas de sport, il faute, parce qu'il tasse son corps, et donc il va être fatigué, et quand il sera fatigué, il ne pourra pas étudier la Torah, donc ça revient au même. Okay. Les rabbanim, qui te dit qu'ils n'ont pas le temps? Ils prennent le temps. Pourquoi tu vis avec eux? Les rabbanim font du sport. C'est une mitzvah de faire du sport. Il y a des rabbanim qui font du sport, bien net. Je rigole pas. Plein de rabbanim font du sport. Maintenant, si tu considères que le sport c'est une perte de temps, c'est autre chose. Mais je te parle de la Torah que nous étudions, la Torah du Rav Kook. Le Rav Kook nous dit carrément les mots. Il nous dit shririm, chazakim, des muscles puissants. Non, c'est pas un remède. C'est pas un remède. Ça veut dire que tu dois, pour avoir une santé, comment tu peux étudier la Torah des heures? Comment tu peux étudier la Torah des heures si ton corps est faible? Si tu n'as pas de puissance à l'intérieur de ton corps? Si tu ne peux pas défendre ta terre, comme il dit, au niveau de la guerre? Pour l'instant, on est encore dans ce degré-là. On est obligé de le développer. Ouais, mais encore une fois, tu te contredis de ce que tu as dit tout à l'heure. D'accord? Donc, on ne peut pas, nous. Nous, on fait les choses et Akadosh Baruch Hu nous aide. Ok? Top. Et donc c'est comme ça que la lumière messianique se dévoile. Pour les faire monter, pour les amener vers le degré le plus élevé. Donc on a dit que dans le Tav, il y avait un petit pied qui sortait. Eh bien dans la première lettre de l'alphabet, c'est le Aleph. Qu'est-ce qu'il y a au départ du Aleph? Un Yud. C'est-à-dire? Donc du Yud qui était en fait la même chose dans la lettre Taf, c'est un petit Yud qui sort. En fait, tu remontes toutes les lettres de l'alphabet jusqu'au premier Yud qui est en haut à droite du Aleph. Ma? Oui, ça fait deux Yud en bas. Mais il y a le Yud en bas. Parce que c'est le nom de Dieu, c'est l'unité. Deux fois Yud, c'est 20, et le Vav, c'est 6, c'est 26. D'accord? Ça veut dire que là, on remonte jusqu'au premier Yud de la lettre Aleph. C'est-à-dire de la dernière patte du taf, jusqu'au premier yud du aleph, c'est ce qu'on appelle la geoula. Tout doucement, du bas vers le haut, on monte. Ve'ayara meshichit azot. Et cet éclairage messianique, eina ba'al yede hayerida. Celle-là ne vient pas par la descente, elle vient par la montée. C'est nous qui montons. Et la adraba, mikevan shiardule makom ayoter namur. Et tout ça parce que nous sommes tombés dans les degrés les plus bas. Megale Akadosh Baruch Hu Shama et Taor Amavik, c'est là-bas même qu'on commence le travail, Akadosh Baruch Hu nous dévoile que même du degré le plus bas, on peut commencer à voir, ou à entrevoir en tout cas, la lumière la plus haute. Orosh El Mashiach, la lumière messianique. C'est pour ça qu'il ne faut jamais désespérer, et il ne faut jamais tomber dans la déprime, ce qui est en fait la maladie la plus grave. La dépression est la maladie la plus grave, selon la Chassidoute, c'est le 50e degré d'impureté. Quand quelqu'un tombe dans ce 50e degré d'impureté, chas v'shalom, il a beaucoup de mal à sortir de ça. Et en fait, c'est la plus grande des maladies. Il faut tout le temps faire attention de ne pas rentrer sombré là-dedans. C'est pour ça que Mishenichnas Adar, Marbin Besimcha, il faut avoir une simcha profonde depuis le jour où Adar commence. Et quand il y a marqué le mois de Av, Mishenichnas Av, qu'est-ce qu'il y a marqué? Mais Ma'atin Besimcha. Qu'est-ce que ça veut dire? On diminue la simcha. Est-ce que ça veut dire qu'on doit être triste? Non. C'est toujours de la simcha. Mais ou plus ou moins, mais la seule valeur qu'on a dans le curseur s'appelle simcha. Il faut faire très attention à ça. Parce que servir Dieu dans la colère, dans les nerfs, dans la peur, dans l'angoisse, ce n'est pas servir Dieu. Servir Dieu, Yivdou et Hashem, besimcha. C'est avec la simcha qu'on doit servir à Kadosh Baruch Hu. Et donc il faut s'efforcer tout le temps, si tu vois que tu tombes et tu t'éloignes de cette simcha, fais en sorte de la rattraper.
Oui, mais la crainte de Dieu, elle peut entraîner aussi une angoisse, c'est de mal faire aussi, de mal servir Dieu.
Il y a fait. C'est pour ça que ce n'est pas une crainte de cette manière-là. Ce n'est pas une peur infantile. C'est une crainte, en fait, de la révérence divine qui, en réalité, te remplit de joie intérieure. Et ta crainte, en fait, c'est une crainte de ne pas perdre ton lien d'amour. C'est ça que tu dois craindre. D'accord ? C'est une crainte de ne pas perdre le lien qui me relie à Kadosh Baruch Hu. Ça, je dois craindre toute la journée. C'est bien ? De perdre l'amour, de perdre la simcha, de perdre tout ça. Ça, il faut faire attention. Ken, qu'est-ce qui a marqué dans Amalek ? Zachor et Asher asa lecha Amalek, baderech betzetrem mi mitzraim, Asher karcha baderech, il t'a refroidi. Qu'est-ce que ça veut dire refroidi ? C'est la tristesse. Quelqu'un qui est chaud, c'est quelqu'un qui est sa mère, qui est dans la simcha. Quelqu'un qui est froid, c'est quelqu'un qui est dans la tristesse, dans la mélancolie, dans l'angoisse. Ken, baderech, veata ayef, et ça entraîne quoi cette angoisse ? La fatigue, c'est tous les symptômes d'un homme qui est dans la dépression. Donc tu perds la crainte de Dieu, tu perds ton contrôle de ton corps, tu deviens faible, tu ne penses qu'à dormir. En fait, tu es devenu dépressif. Et ça, il faut faire très attention de ne pas servir Dieu dans cet état. Il faut servir Dieu dans la simcha, et c'est une mitzvah, mamash, d'être dans la simcha tout le temps.
Okay.
Le lendemain de Pourim, ça diminue déjà, malgré nous. Okay. Nahon, tu as raison. Non, moi je parlais de Av. De Av. Parce qu'en réalité, le lendemain de Pourim, on continue vers Pessah. Ken yamim tovim ayole Israël, dirachi Pourim ve Pessah.
La simcha, donc, commence le premier...
C'est pas qu'elle commence. On augmente le volume, le premier Hadar.
Et le premier...
Premier Av. On commence à diminuer le volume, mais il est là. C'est toujours la simcha. Attention. D'accord ? Ok. Asher mitzad godel avakato ve mitzriyuto lo tuchal shum chashecha shebaolam lehadich et oro agadol. Donc en réalité, cette lumière messianique, qui est, si on la ressent normalement, sainement, elle ne doit jamais nous quitter. On doit être tout le temps dans cet état de simcha intérieur et extérieur. Tout le temps dans un feu intérieur de lien avec Akadosh Baruch Hu. Si notre Torah devient froide, éteinte, lourde, sans avoir envie, comme si c'était lourd pour toi, Ken, tu commences à te poser des questions, il y a un problème dans ton étude. Kol zeitachen, rak mipnei shelo haita kavanat hayirida mitzad ha'anashim ba'alei habechira liglol al yedei ze et hayara meshichit. אולם לו הייתה כוונה כזו, הייתה מרעילה את הירידות ברעל כל כך מסוכן, עד שגם אורו של משיח לא היה יכול למצוא מקום שם. ולא הייתה שום אפשרות לתקן כל זה זולת על ידי מירוק רב ויגונות ואיסורים קשים ומרים עד מאות, רחמנה ליצלן. עומדי לו רב, on peut monter du bas vers le haut, parce que la descente n'était pas une descente d'un choix. Le monde a été créé comme ça. Comme tu as dit tout à l'heure, le monde a été créé comme ça. C'est-à-dire que le monde a été créé, que la matière apparaît avant l'esprit. Eh bien, puisque c'est comme ça, l'homme a la place de faire ce travail de monter, de monter, de monter. Mais si Chas Veshalom, c'était à cause de nous que le monde, ce processus, était comme ça, ce processus. Je répète, si c'était à cause de l'homme, en fait, que tout commence par dévoiler d'abord l'extérieur avant l'intérieur, ce qui n'est pas le cas, ce n'est pas à cause de l'homme, c'est Dieu qui a créé le monde comme ça. Mais si c'était à cause de l'homme, on n'aurait jamais pu monter véritablement. Ça aurait été très difficile. On aurait pu monter, mais avec beaucoup de peine, beaucoup de difficultés. Mais puisque c'est Dieu qui a créé le monde de cette manière-là, que les choses apparaissent d'abord à l'extérieur, et tout doucement elles montent vers l'intérieur, alors on a la capacité, en fait, l'ishtatef, de participer à cette montée et d'amener notre lumière en même temps. Okay? Chacun selon ce qu'il a de la Torah, chacun selon ce qu'il peut faire. Bereshet Taout Nora Azo, on est au dernier paragraphe, dans ce filet d'erreurs terribles, Nafal Hashatz Shem Reshaim Irka. Le Shatz, c'est Shavtai Tzvi. Ken Shavtai Tzvi, vous connaissez Shavtai Tzvi? Vous avez entendu parler de lui?
Le faux Messie.
Oui, le faux Messie. Alors, il s'est levé dans le... Hein? Il a fini en prison, dans une prison arabe, tu as raison. Mais au départ, c'était un homme qui vivait là et qui, oui, qui disait en fait qu'il était le Mashiach. Il y a plusieurs. Et il y a eu beaucoup de problèmes avec cet homme-là. Et en fait, sa plus grande erreur, je ne vais pas rentrer maintenant dans tous les détails, il était très sage dans la Torah, avec des connaissances extraordinaires que personne n'arrivait à contredire. Il avait vraiment une puissance et une connaissance terrible des choses. C'est pour ça qu'il y avait une grande difficulté avec lui. Et lui, en fait, sa grande erreur, dit ici le Rav, « La chashov she davka al yedea yeridot ve'avara al divret Torah titgale ara meshichit. » Lui, il a pensé, puisque tout commence par le bas vers le haut, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut descendre. Donc on va aider à tomber. Il s'est dit, en fait, je vais vous donner l'exemple, je vais descendre dans les degrés les plus pourris de ce monde, je vais faire donc moi l'effort d'aller là-bas, et de là-bas je vais tirer des étincelles de lumière. On a dit tout à l'heure que c'était une grave erreur, parce que si c'était comme ça, jamais on pourrait sortir. La preuve, c'est qu'il s'en est pas sorti. Nous, on peut faire les choses, parce qu'on est déjà dans un monde que Dieu a créé de cette manière-là, où la matière précède l'esprit. C'est-à-dire ? Est-ce que vous avez compris d'abord cette différence ? Ok.
C'est vrai que c'est
commercial, pas l'islam. Oui. Ken, c'est devenu un chibouche total dans son cerveau. Ken, il y a un problème, il y en a qui disent que c'est pas vrai, enfin, il a fini dans une prison, converti à l'islam, enfin, un truc bizarre, une histoire tragique du peuple d'Israël, vraiment, où il y a des gens qui pensaient, vraiment, même des gdolim d'Israël, qu'il était un des gdolim. Exactement. Exactement. C'est exactement ce qu'on est en train d'expliquer. Tu as tout à fait compris. Ça veut dire, j'ai pas besoin de descendre plus que je suis déjà. Exactement. Tout à fait. Tout à fait. C'est la même chose dans notre vie. Tu n'as pas à aller chercher des épreuves. Tu n'as pas à aller chercher des embrouilles. Déjà, avec ce que tu as, ça suffit. Commence à monter du bas vers le haut. C'est tout. Lui, au contraire, voulait descendre encore plus pour aller chercher quelque chose, je ne sais quoi, et le remonter. Il est tombé, il n'est plus remonté.
Il voulait descendre, c'est pas il allait chercher des gens qui étaient perdus.
En même temps, il disait que c'était pour aller chercher des étincelles, mais bon, il faisait des choses très très graves, avec des femmes et plein de choses, quoi. Peu importe. Ça veut dire descendre dans la Touma, la plus Touma qui puisse exister, pour retirer de là-bas des étincelles. Donc c'est un jeu dangereux, interdit, et on a vu comment ça s'est terminé. Donc, Chas v'Shalom, il ne faut pas jouer à ça. Donc ici, le Rav parle, puisqu'on parle de messianisme, n'essayez pas d'aider à Kadosh Baruch Hu en accélérant le processus d'aller vers le mal. Faites du bien, c'est tout. On n'a pas besoin encore de mal dans ce monde pour te dire, oui, je vais faire du mal parce que de là-bas, je vais retirer le bien. Non, on n'a pas besoin de toi, Dieu déjà sait ce qu'il fait, il n'a pas besoin d'aide dans ce sens-là. Tu veux aider Dieu ? On peut aider Dieu, mais dans l'autre sens. Ok ? Travailler avec Dieu, ça s'appelle. Avodim el, ifolim el. Velo od el ashechashav shegam sidrei ageula mitzad apnimiut yu besoda tashrak. Et lui, en fait, son erreur, il pensait que toute la geula elle venait du bas vers le haut. Il n'y avait aucune geula qui venait du haut vers le bas, comme on a expliqué la fois dernière et au début de ce shiur. C'est-à-dire qu'on avait expliqué qu'il y avait un processus qui venait du haut vers le bas, du système Nissan, vous vous rappelez, en même temps que le système Tishrei qui vient du bas vers le haut. Lui considérait que non. Lui considérait que toute la Géoula était seulement du bas vers le haut. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut descendre au plus bas pour essayer de remonter. Ve'afach ha-ke'ara al-pia, donc il a en fait changé, inversé tout le sens des choses. Ve'nilkad berisho, il a été fait prisonnier par sa propre rishout. Sa propre mécréance, Vegaram le kolat sarot agdolot, il a causé toutes les grands malheurs, Veharedifot et le fait que les Juifs soient poursuivis, Hanoraot she savlu achenu bnei Israël, que tous les enfants d'Israël ont subi, mais Az veadata de son époque jusqu'à maintenant. C'est-à-dire le Rav lui met dessus toutes les fautes. Le Rav Khalab lui dit c'est à cause de lui qu'on est encore poursuivi jusqu'à maintenant de tout ce qu'on. Adata, lui quand il parlait, la Shoah n'était pas encore. Non, Shabbatai Tzvi, c'était il y a bien longtemps. Mais je parle du Rav Harlap qui écrit ce cours.
Ouais, mais on va la voiture qui on parle.
J'ai pas compris.
On va la remet la faute sur lui.
Sur Hachartaï Tzvi. Ouais. Lui, le Rav Harlap remet la faute sur lui, dit que tout ce qu'on a eu, tous les pogroms, tous les machins contre les juifs, jusqu'à maintenant, c'est-à-dire jusqu'à son époque où il écrit ce texte, c'était à cause de Shabtai Tzvi. Aval Lashav, Kol Chesionotav. Et nous, on sait, dit le Rav, que toute cette idée qu'il avait développée était vaine, n'avait pas lieu d'être, c'était une folie. Amuralim ou Beshekher Kol Yesodam, c'était de la, comment dire, Raal, de. Du poison. C'était du poison et des mensonges tout entiers, que du mensonge. Sheken en shum yetzirat irida mevia alia. Car il n'y a aucune force que toi tu décides de descendre qui va te permettre de remonter. Ça veut dire ne jouez pas à ça. Zulat imieshna kvar irida. Sauf si la descente elle est déjà, malgré toi. C'est pas toi qui l'as créé. Yordot shaman et shamot gdolot. Alors, ça c'est ce que Dieu fait. Tu n'as pas besoin de participer à ce processus. Dieu déjà met des neshamot très élevés dans des degrés très bas. Ou met irot shama pour qu'elles éclairent là-bas. Vedavka aliyedei shmirat tzivyonan. Et elles doivent garder leur identité. Et c'est en gardant leur identité, kdushatan vetaharatan, en gardant leur sainteté et leur pureté, mibli leitlachlech, beshum chet veavon, sans se salir par des fautes, ken, par des chataim. Ketem verevav, sans avoir aucune tâche, hen ma'alot et kol ayiridot ou motziot yakar mizolel. C'est grâce à ça qu'elles vont monter du très bas, en sortant avec elles plein de degrés qui attendent en fait qu'on les délivre de ce monde noir. Ça veut dire que, je résume avec des mots simples, Dieu crée des neshamot, il les fait descendre dans des mondes très 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 bas. C'est son choix, c'est pas moi qui participe à ça. Mais si c'est une neshama qui est comme ça, et elle peut être dans les individus, hein, ces neshamot, elles sont habillées dans des corps. C'est-à-dire, si vous voyez une personne qui est dans un monde très très bas, c'est possible qu'Akadosh Baruch Hu l'a mise là-bas, parce que c'est une grande neshama, et qu'un jour ou l'autre, il va remonter en remontant avec lui plein de choses. Je vous donne un exemple. Par exemple, il y a un grand rav en Israël, qui était un acteur de cinéma, dans des films pas très clairs. Hein, et quand il a fait tshuva, hein, il est devenu aujourd'hui un des plus grands rabbanim d'Eretz Israël. Et il a ramené avec lui, en fait, plein des gens du monde du cinéma. Ken Uri Zohar. D'accord ? Vous étiez pas encore né, peut-être. C'était... Hein ? Non, il est vivant. Il est vivant, il est là, il est un grand rave en Israël. Il a 70 ans. Maintenant. Je parle, il jouait des films, il avait 18 ans. Ken ? Et moi, quand j'étais petit en Israël, et c'était l'acteur. Ken ? L'acteur en Israël. Il a fait tshuva. Toutes les gens qui étaient autour de lui, des chanteurs, des machins. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a un grand, grand retour de tshuva, de chanteurs, tout le show business israélien. Il se passe des choses extraordinaires. Et Baruch Hashem, j'ai la chance de connaître un petit peu ce milieu, avec tous les chanteurs. Et tous ces chanteurs israéliens aujourd'hui sont en train d'étudier régulièrement, toute la semaine. Okay. Baruch Hashem, je n'ai pas compris. Ofernissim, quoi? Il y a plein de noms, plein de noms. Mamash, des gens même que vous ne savez pas, qui sont dans un processus de tshuva parce qu'ils ne veulent pas trop le dévoiler, mais c'est extraordinaire ce qui se passe. Il y a des moments où ça dépasse déjà passé. Donc en fait, tout ça, c'est pour remonter, ça c'est Akadosh Baruch Hu qui décide pour remonter vers le bien. Et c'est comme ça qu'on doit considérer le tikkun de notre travail jusqu'à la fin des temps. Ça veut dire qu'on ne doit pas, nous, aider à faire le mal, on doit tout simplement sortir du mal et aller vers le bien, et surtout, détruire sur notre chemin Amalek. Ken machot imche et zecher Amalek mitachat ha-shamayim, fais attention que Amalek ne te prenne pas à la gorge. Ken lo tishkach, n'oublie pas. Ken zachor ve lo tishkach. Ken, souviens-toi et n'oublie pas. Double commandement, un positif, un négatif. Zachor lo tishkach. Pourquoi? C'est tellement grave, parce que Amalek, en fait, t'amène à l'angoisse. Si tu es angoissé, si tu n'es pas bien dans ta peau, si tu es triste, si tu es éteint, ça veut dire que Amalek est en train de t'attraper, sors vite de ce degré-là et ne rentre pas dans ce piège du doute.
Donc Amalek, c'est
Yetzer. Amalek, c'est une des formes la plus puissante, la plus profonde du Yetzer. Okay. C'est aussi un peuple, mais c'est aussi une valeur spirituelle qui attaque la personne pour la mettre dans le doute de ce qu'elle fait.
Aujourd'hui, ce peuple est
dispersé. Nahon, mais c'est aussi au niveau de ton être intérieur. Okay. Donc il faut faire attention à ça et évoluer dans la simcha jusqu'à Bezat Hashem atteindre les degrés de Purim et de Pessah, et si Dieu veut, la Géoula cette année. Amen.